Aurélien Toby, bonjour. Vous êtes chercheur au CIPRI, l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, en Suède. Vous vous intéressez particulièrement au centre du Mali, en proie à la violence, où des groupes terroristes s'en prennent violemment à l'armée, au maire, aux juges, bref, tout ce qui peut représenter l'État. Quelles sont, selon vous, les racines de ce conflit dans cette partie du pays?
Alors, ce rejet de l'État, il n'a pas commencé avec les djihadistes. L'État du Mali a toujours été faible dans toutes les régions du Mali. Il n'a pas vraiment été capable de donner les services de base aux populations, que ce soit dans les régions du sud, de Kayes, de Koulikoro, de Sikasso, comme dans les régions du nord. Mais à la faveur de cette crise-là, on a pu voir des acteurs, comme les acteurs djihadistes ou comme les acteurs rebelles d'ailleurs, qui proposent, un rejet violent de cet État-là.
Alors, est-ce qu'on peut dire que ce rejet de l'État fait partie intégrante de la stratégie d'implantation de ces groupes terroristes?
Oui, évidemment. Moins l'État est légitime, plus les groupes djihadistes peuvent justement fournir ces services de base aux populations et apparaître comme un mode de gouvernance parallèle, si vous voulez, ou en tout cas alternatif à l'État.
Au-delà de ça, comment peut-on expliquer le fait que ces djihadistes et leurs discours extrêmes puissent, eh bien, s'implanter aujourd'hui dans cette région?
Ils répondent à des préoccupations qui ont été présentes dans la zone depuis très longtemps. Les diverses communautés du centre du Mali ont divers modes de production. Il y a des pêcheurs, il y a des éleveurs, il y a des agriculteurs, il y a toutes sortes de différents modes de production en fait pour les différentes communautés du centre du Mali. Évidemment, ces modes de production sont parfois en compétition ou en conflit, ils créent des tensions. Cette contestation des autorités s'est exprimée depuis une dizaine d'années dans le centre du Mali, avec une tentative de renégociation des droits traditionnels. Par exemple, le paiement de redevances traditionnelles pour accéder au pâturage peut être source de tension pour les gardiens des vaches et les propriétaires des pâturages.
Donc ce que vous dites, c'est que ces groupes instrumentalisent, si je puis dire, des tensions qui sont presque ancestrales.
Ces tensions-là ont toujours existé et existeront toujours. Seulement, le mode de régulation de ces tensions-là est de plus en plus contesté. Il y a des modes de régulation traditionnels, ancrés dans la coutume, et il y a des modes de régulation étatiques. Mais aucun mode de régulation n'a réussi à s'établir comme le mode légitime, unique, de régulation de ces tensions. Maintenant, ce que font les djihadistes, c'est qu'ils s'inscrivent dans ces préoccupations locales pour leur donner un autre nom, celui du djihad, celui de l'extrémiste djihadiste.
Mais ces terroristes, ils ont trouvé dans un premier temps une oreille attentive auprès des populations. Alors qu'ils tuent, qu'ils terrorisent, comment on explique cela?
On parle de la charia, du respect du Coran, de leur interprétation de l'islam. Mais il faut aussi comprendre que ces acteurs djihadistes ont cette interprétation de l'islam. C'est aussi porteur d'idéologie politique, d'une certaine façon. L'idéologie salafiste, c'est aussi un facteur d'égalité. Tout le monde est égal devant Dieu, tout le monde est considéré également par la loi islamique, par exemple. Et ça, c'est extrêmement séduisant par des personnes qui se sentent flouées par la tradition, par la coutume, par même la régulation de l'État qu'ils voient comme prédateur. L'idéologie salafiste, celle portée par les groupes djihadistes d'Amadou Koufa ou d'Iyad Agrali, par exemple, c'est assez émancipateur, en fait, pour plein de populations à qui on propose une certaine liberté par rapport à ces carcans traditionnels. Et ça, c'est assez important aussi de comprendre ça, que c'est pas entièrement religieux, en fait, le discours. C'est vraiment un discours politique ancré dans l'islam.
Vous l'avez dit, il réclame un changement de gouvernance, mais concrètement, ça voudrait dire quoi?
C'est exactement sur ce sujet que devrait porter la conversation. Quel est le modèle du rôle de l'État au Mali? Est-ce que c'est à l'État de décider de tout, partout et tout le temps? Est-ce que c'est à l'État de tout faire pour toutes les populations du Mali? Ou est-ce que l'État devrait plus jouer un rôle de régulateur en mettant certaines limites à l'adaptation de ses services sociaux de base pour chacune des populations? On pourrait très bien imaginer que l'État accepte que d'autres acteurs, en fait, produisent des services même régaliens, même d'éducation, même de santé, tout en posant certaines conditions, que les filles et les garçons soient également concernés, par exemple. Qu'il n'y ait pas plus de 35 élèves par classe. On pourrait imaginer des choses comme ça. Plutôt que se prétendre le seul acteur légitime dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la sécurité. Ce qui n'est pas possible. L'État n'a pas la capacité de répondre à tous les besoins de la population.
On parle beaucoup de discuter avec Amadou Koufa, avec Yadda Khali. Le gouvernement malien a d'abord dit oui, pourquoi pas, avant de reculer devant la pression de la communauté internationale, la France en tête. Est-ce que, selon vous, le Mali peut et doit discuter avec ces terroristes?
Alors c'est une question extrêmement sensible. La dichotomie entre acteurs djihadistes et acteurs acceptables sur le plan politique, c'est une dichotomie qui n'existe pas au plan local. C'est quelque chose, c'est un modèle international qu'on plaque sur le Mali, si vous voulez, avec les acteurs acceptables et les acteurs inacceptables. On ne dialogue pas avec les terroristes, c'est une version beaucoup trop tranchée de la question. On l'a vu avec la conférence d'entente nationale, par exemple. L'une des premières recommandations de cette conférence d'entente nationale qui a regroupé des Maliens de tout le pays a été d'engager un dialogue avec Amadou Koufa, avec Iyad Agrali, ces grands leaders djihadistes du Mali qui sont des frères, au bout du compte, du reste de la population du Mali.
Merci Aurélien Toby.
Avec plaisir.